Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Avant de commencer, je voulais vous dire que ce podcast, il a un compte Instagram qui s'appelle Vlan Podcast, sur lequel on fait plein d'interactions, on discute en message privé, par commentaire, donc n'hésitez pas à le rejoindre si vous n'êtes pas déjà follower. Sur cet épisode, je reçois Lily Barberie Coulon, qui a une histoire personnelle qui va forcément résonner en vous, je pense, si vous en êtes à un stade où vous vous posez des questions sur à quoi sert ma vie, si vous essayez de trouver une sorte d'équilibre impossible entre des choses qui ne fonctionnent pas ensemble, sur votre mode de vie, sur le rôle de votre vie dans la société, dans le monde, sur la planète. Je pense que c'est cet épisode qui est beaucoup plus long que les autres, mais en même temps, Lily est vraiment passionnante et hyper articulée dans la manière dont elle a analysé son chemin. Ça devrait, je pense, vous intéresser. Donc je vous laisse avec cette conversation. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Lily.
Bonjour.
Alors, comment te présenter? En fait, tu es une journaliste, à l'origine en tout cas.
Ouais.
Tu as un blog depuis un petit moment maintenant.
Ouais.
Et tu as fait une grosse révolution personnelle, on peut dire ça.
Ouais, j'ai pas mal changé. C'est difficile toujours pour moi de me définir aujourd'hui, en tout cas de définir mon activité, parce qu'elle est multiple. Mais effectivement, j'ai été journaliste pendant 15 ans. J'ai créé un blog en 2010 qui porte mon nom. Et je peux pas vraiment dire que je sois aujourd'hui blogueuse, même si ce blog est toujours actif, mais beaucoup moins qu'avant. Je peux pas vraiment dire que je sois uniquement influenceuse, bien que j'ai un compte Instagram qui est très suivi et que j'ai un impact sur ma communauté. J'enseigne le Kundalini Yoga depuis le mois d'octobre 2018, donc c'est très récent, ça fera bientôt un an. Mais je peux pas dire de moi que je suis uniquement prof de Kundalini Yoga. Je fais beaucoup de choses différentes.
Ouais, une slasheuse.
Si on veut.
Et alors, la première question, c'est que je crois que je vois autour de moi, et puis je vois à l'intérieur de moi, beaucoup de personnes qui se posent des questions, qui se sentent plus très à l'aise avec leur mode de vie, qui parfois ont soit des cassures, donc soit ils vont avoir une cassure au niveau du travail, ou alors ils vont tomber malades, ou qu'il y a un moment où du coup ils vont lever la tête et se dire mais où est-ce que je cours, pour se rendre compte qu'en fait il y a la course. Enfin, c'est vachement facile de courir parce qu'en fait, tu mets des œillères et puis tu vas en avant et puis en fait, tu réfléchis pas et puis tu fais parce qu'on t'a dit et puis voilà, c'est comme ça que t'as appris. Et puis à un moment donné, tu lèves la tête et tu fais « Attends, où est-ce que je vais déjà ?» Et alors, la question, c'est comment ça se fait? Peut-être que tu peux parler de ta vie d'avant, entre guillemets, et ta vie après, mais qu'est-ce qui a fait la bascule?
Alors, moi, j'étais un peu comme un hamster dans une roue, donc je savais pas exactement après quoi je courais. Mais je courais très vite. Et puis, j'étais plutôt de celles qui courent tellement vite que je pouvais courir dans plusieurs roues en même temps. J'ai toujours tiré beaucoup de fierté à faire énormément de choses en même temps.
T'es très occupée.
À être très occupée et à avoir très peur des silences. Je suis quelqu'un dont on peut dire que je suis assez bavarde. Et je laissais pas beaucoup d'espace pour les silences, pour l'ennui, pour juste le fait d'être, par exemple, assise sur un lit sans occupation. C'était quelque chose qui ne m'arrivait jamais. Je travaillais énormément. j'étais directrice, enfin en tout cas je m'occupais de gérer la beauté pour M, le magazine du Monde, c'était déjà une activité qui me prenait l'essentiel de mon activité, mais à côté de ça je faisais tout un tas de choses tout le temps, et le blog en fait était très actif, il m'arrivait de publier 5 à 10 contenus dans la semaine et des articles très longs avec des grosses enquêtes à chaque fois. Et j'avais envie d'être performante dans tous les domaines, que ce soit à la maison, en famille, d'avoir une vie sociale remplie, d'organiser des dîners, d'être cette mère parfaite qui fait des anniversaires absolument ravissants pour sa fille, qui veut pouvoir passer du temps avec sa fille, j'étais très occupée, sans arrêt, et finalement assez fière d'avoir cet emploi du temps surchargé, parce que je pensais que ça donnait de la valeur à mon existence. J'avais pas compris que peut-être ma valeur était ailleurs, mais j'allais la chercher à l'extérieur de moi tout le temps. Donc j'avais besoin beaucoup de valorisation, et le métier que je faisais, à savoir qu'il y ait mon nom dans un journal aussi prestigieux, associé à l'institution qu'est le quotidien Le Monde, même si c'était le magazine, j'en étais extrêmement fière. En plus, magazine avait il y a toujours une réputation sans faille, c'est un magazine extraordinaire. Donc moi j'avais vraiment besoin en fait d'être réconfortée, rassurée sur ma valeur à travers ce que pouvait en dire l'extérieur. J'ai fait ça pendant des années, sans trop me poser de questions. J'ai quand même fait une psychanalyse, j'ai commencé à 16 ans en fait, j'ai une enfance assez difficile, et à l'âge de 16 ans, j'ai frappé à la porte d'un CMPP, d'un centre médico-psychopédagogique, et qui fait partie des lieux qui m'ont quand même sauvé la vie, à l'âge de 16 ans. Et je suis quand même restée en analyse jusqu'à l'âge de 26 ans. Donc j'ai quand même tout de suite entamé un travail sur moi assez puissant et profond. Psychanalyse freudienne qui ne m'a pas permis d'aller au-delà des symptômes. Mais enfin, c'était pas le but non plus, puisque la psychanalyse freudienne n'essaye pas de guérir les symptômes. On essaie de comprendre en tout cas les schémas et d'où ils viennent. Donc j'avais entamé ce travail-là. J'avais jamais paressé plutôt en ce qui concerne le travail sur soi. J'ai tenté l'hypnose ericksonienne, le MDR, une thérapie assez longue avec beaucoup de MDR. J'ai fait plein de choses en fait pour aller mieux, me sentir mieux. Mais je pensais qu'en ayant un travail qui me plaisait, parce que ça me plaisait beaucoup d'être journaliste, dans une équipe intelligente, avec des gens stimulants, dans un journal génial, marié avec un homme qui est formidable et une petite fille qui a été en bonne santé.
Encore plus formidable.
Je voyais pas en fait pourquoi j'étais pas satisfaite en fait. Donc je croyais que je faisais partie de ces gens éternellement insatisfaits qui n'arrivent pas à être dans l'instant présent. Donc j'avais mis en place une pratique de méditation avec des applications comme celles qu'on peut trouver sur nos téléphones. Et j'en faisais 10 à 20 minutes par jour, et puis pendant quelques semaines, des fois rien, mais souvent quand même, j'étais assez régulière. Bon, et puis, malgré tous mes efforts, je me détestais, et je nourrissais vraiment une haine, en particulier de mon corps. Donc, je me levais chaque matin, j'étais plus ronde que je ne le suis aujourd'hui, j'avais pas mal de kilos en trop, et je me levais chaque matin en fait en me disant « mais t'as aucune volonté, t'es qu'une merde, comment tu vas t'habiller aujourd'hui ?» Tu sais pas, de toute façon, il n'y a plus rien qui te va, donc voilà. Donc ça, c'était la petite voix qui prenait tout l'espace dans ma tête dès le réveil. Et ça s'arrêtait par moments dans la journée, mais elle reprenait tout l'espace dans mon cerveau non-stop. Et moi, je passais mes journées à observer les femmes dans la rue, dans le métro ou ailleurs, et à me dire « mais comment est-ce qu'elles font les autres ? Comment est-ce qu'elles font, quoi ? Ça a l'air facile. » Moi, je me sentais aliénée, en fait, avec cette perception complètement difforme, en fait, que j'avais de moi. Et je me sentais monstrueuse, quoi. Et je me disais, tout le monde doit le voir. Tout le monde doit s'en rendre compte, en fait. Et il y a eu une première étape qui a été hyper importante pour moi et qui a provoqué un grand choc. Ça a été les attentats. Les attentats de novembre en particulier, ceux de Charlie Hebdo m'avaient déjà bien secouée. Et puis, en tant que journaliste, voilà, aller tous les jours dans un journal où on doit passer devant des policiers qui sont armés pour pouvoir rentrer dans l'enceinte de son lieu de travail, c'était pas simple. Mais en novembre, là, je crois que ça a été vraiment... J'ai compris que je ne pourrais plus jamais trouver de la sécurité à l'extérieur de moi-même. C'est-à-dire que la sécurité, il allait falloir que je la construise à l'intérieur de moi. Et ça, c'était quelque chose de très nouveau, quoi. Ne pas me sentir en sécurité dans une rue qui était celle que je considérais être chez moi. J'avais pas fait ce travail de construire la sécurité en moi. Pourtant, je pensais l'avoir fait, hein. Mais c'était visiblement pas suffisant. Donc j'ai été secouée de manière très forte, en fait, à ce moment-là. Et toutes les fragilités de l'enfance, tout ce que j'avais vécu quand j'étais petite, qui avait été difficile, est remonté à la surface. Et j'avais l'impression qu'en fait, même les piliers, même ce que je croyais avoir été plutôt joli, tout s'effondrait, quoi. Donc j'étais en plus hyper en colère contre moi de vivre ça à l'approche de mes 40 ans et de me dire mais enfin c'est pas possible quoi, ça fait 20 ans que tu racontes tes salades à des psys, que t'es allongé sur un divan, que tu fais un travail et là t'en es encore là à pleurer du matin au soir, mais au secours. Je m'auto-soulais toute seule, je ne pouvais plus supporter en fait ces voix dans ma tête de je suis trop malheureuse, je suis une victime, etc., etc. Bon, le fait de me rendre compte que ça n'allait pas, ça a été une première étape. Et puis, en février 2016, alors que j'étais en train de trier des photographies dans mon ordinateur, jusque-là, je n'avais jamais confié de propos personnels sur mon blog. J'étais toujours restée en surface, en fait, ça va. Je me disais, en fait, c'est une politesse de pas se plaindre, donc je vais pas commencer à me plaindre. J'ai une vie extraordinaire, je voyage beaucoup, je fais plein de choses. J'ai pas de problème d'argent, donc j'étais consciente. Moi, je viens pas d'une famille. Ma mère, elle est née dans une misère terrible, culturelle, sociale. Je sais ce que ça veut dire. Quand j'allais voir ma grand-mère à Bondy dans le 93, dans une cité où l'ascenseur était toujours cassé, qu'il fallait monter les 9 étages à pied, que ça sentait la pisse du rez-de-chaussée jusqu'au 9e étage, je me souviens très bien de ça. Et je me disais, je peux pas, moi, commencer à me plaindre alors qu'il y a des gens qui vivent ça. C'est pas possible. Donc je m'autorisais pas, en fait, à faire l'aveu de ma vulnérabilité. C'était pas possible. Mais il y a quand même eu un truc plus fort que moi qui m'a dit qu'il était temps, en fait, de partager un peu plus d'authenticité. Donc je triais des photos et je me suis aperçue que dans mon téléphone, je n'avais que des photos de buffet. Je n'avais plus aucune photo de moi. Évidemment, je faisais rarement des selfies parce que j'étais convaincue que j'étais immonde. Donc je me montrais assez rarement. Et quand je le faisais, les photos étaient tellement alors trafiquées, je prenais pas Photoshop, et je veux dire avec aujourd'hui Instagram, on peut quand même pas mal se transformer, quoi.
Ah ouais, bien sûr.
Où il y avait des angles où finalement j'avais l'air plus mince que je ne l'étais, tout ça. Et là, en fait, je me suis dit non mais j'ai vraiment, je pensais avoir réglé mes problèmes, des troubles de comportement alimentaire, parce que j'avais eu des crises de boulimie quand j'étais dans ma vingtaine, mais ça s'était terminé. Donc je me disais non mais voilà, c'est pas possible, quoi. Comment ça se fait que la seule chose qui m'intéresse, ce soit de photographier des pâtisseries régressives et que je vive dans ce monde-là sur mon téléphone? Qu'est-ce que ça raconte, ces images-là? Et puis, je les partageais. Et ce que ça disait, c'était « moi, je suis une bonne vivante, j'aime la vie, j'aime le sucre, fuck les régimes, fuck les gens qui font du sans gluten, qu'est-ce qu'ils sont chiants, là, là, là. » Et puis, il était 22h et j'ai écrit un texte en une heure de temps que j'ai appelé « Comment je me suis disputée avec mon corps » et où j'ai raconté que ça allait pas du tout, en fait. Que je pleurais tout le temps, que mon corps, ça faisait 20 ans que je le maltraitais, que j'avais pas trouvé la clé pour en sortir et que j'avais tout testé, tous les régimes possibles, les thérapies comportementales et cognitives. Enfin, vraiment, j'avais testé un paquet de trucs. Encore une fois, j'avais pas paressé, quoi. Puis je viens d'un milieu, j'avais la chance d'évoluer plutôt dans un milieu où, en étant journaliste, j'ai rencontré des tonnes de gens dans le bien-être, en fait, qui m'ont dirigée vers des techniques différentes. J'ai fait tellement de choses, enfin, je pourrais en faire un livre juste de ça, quoi. Mais ça n'avait pas réglé le problème, puisque à nouveau, j'avais pris du poids et à nouveau, je ne savais pas comment m'en sortir. Et donc, j'ai raconté ça. Et là, ce qui a été fou, ça a été le raz-de-marée de messages privés que j'ai reçus. Je pense que j'ai reçu des centaines d'emails et de messages à ce moment-là, de femmes qui m'ont confié à quel point elles souffraient elles aussi. Et elles me décrivaient leur poids, leur taille. Certaines étaient extrêmement minces. Certaines correspondaient tout à fait aux critères de beauté qui sont ceux qui sont prônés actuellement. Mmh. Elles auraient pu être mannequins et elles se haïssaient. Et c'était pas un tout petit micro-mouvement. C'était des centaines de femmes. J'étais arrêtée dans la rue par des gens qui me disaient merci d'avoir pris la parole là-dessus. Je me déteste tellement. Je hais mes cuisses, je hais mes mollets, je déteste mes genoux.